Une chose qui m'étonne énormément au théâtre, c'est pas tellement que les acteurs parlent, mais c'est aussi qu'il y ait en face quand même 300 personnes qui se taisent pendant 2 heures.
Valère Novarina.
C'est assez extraordinaire de prendre des gens, de les faire se taire pendant 2 heures. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est très curieux. Alors la pièce se joue aussi comme ça sur la frange aussi entre le théâtre et la scène, et cette présence du public que je ressens un peu comme une présence animale, à savoir comme parler à des fauves.
Ça peut pas faire de mal.
Parce qu'ils sont dangereux, ils pourraient à chaque instant se réveiller. Parfois ils le font. Il faut les pacifier, il faut leur imposer les langues, il faut leur imposer l'acteur doit leur imposer son souffle et sa parole comme ça. Tout le mystère du théâtre est là quand même.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
J'ai avec le festival des souvenirs d'adolescence. J'y découvrais les spectacles de Vitesse, Chéreau, Wilson, Gruber, Stein.
Je vais donc vous donner de quoi me confondre, si je ne pense pas comme vous.
Que voulez-vous dire?
Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question sans réplique.
La différence des esthétiques, les façons de voir le monde, les autres langues et langages, le choc de ces visions artistiques puissantes ont forgé mon regard de spectateur, de metteur en scène, d'être humain.
Ainsi, pour savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez.
D'une certaine façon, le festival m'a aidé à grandir, comme je souhaite qu'il le fasse aujourd'hui pour une génération renouvelée de spectateurs.
Il aurait fallu assister au commencement du monde.
Quand on est profondément amoureux de l'art théâtral, on aimerait revoir aujourd'hui des spectacles mythiques comme La Dispute de Chéreau, Les Molières de Vitesse, des mises en scène de Mouchkine, de Régis. Cependant, pas de festival sans voyage. Il faut proposer des traversées vers les scènes internationales, de nouveaux territoires. Il y a toujours la nécessité de partir à la rencontre des formes et des langues étrangères, en les invitant à Paris. Il s'agit enfin d'interroger l'émergence et évidemment les nouvelles générations. D'où la belle nécessité pour le festival de conserver son esprit d'éclaireur.
Eh bien, nous allons y être. Oui, les hommes, les femmes de ce temps-là, le monde et ses premières amours vont reparaître à vos yeux tels qu'ils étaient.
Ces paroles sont celles d'un jeune metteur en scène promu depuis quelques années à la tête de 2 grandes institutions artistiques. Il s'agit d'Emmanuel de Marcimota, actuel directeur du Théâtre de la Ville, qui dirige depuis 2011 le prestigieux Festival d'automne à Paris. Ces mots sont extraits d'un très beau livre paru le mois dernier chez Gallimard, Esprit d'automne, signé par Antoine de Beck à l'occasion du 45e anniversaire du Festival d'automne. Fondé en 1972 par une poignée d'irréductibles amateurs d'art, parmi lesquels Michel Guy, Alain Combec, Pierre Berger, le Festival d'automne fête en effet sa 45e édition, toujours sous le signe du voyage et de la découverte, à travers un dialogue entre ses disciplines de prédilection, théâtre, danse, arts plastiques, cinéma et musique. Ce soir, je vous invite à entendre les textes qui sont mis à l'honneur cet hiver dans les théâtres parisiens. Des classiques aux contemporains, de Thomas Bernard à Agota Christophe, découvrons les œuvres qui ont inspiré les grands metteurs en scène actuels. Nous saluerons une personnalité majeure du festival, Claude Régis, qui signe cette saison sa dernière mise en scène. Pour m'accompagner dans ces lectures, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste qui conjugue les talents avec la même passion, puisque vous êtes à la fois comédienne et artiste peintre. Bonsoir Candice Lartigue.
Bonsoir Guillaume.
Pour ouvrir cette émission, évoquons l'artiste à qui est dédié ce 45e festival d'automne, le grand metteur en scène polonais Christian Lupa. Dans son livre « Esprit d'automne », Antoine de Beck réunit des témoignages des grands metteurs en scène qui ont fait l'histoire du festival. Dans l'extrait suivant, Christian Lupa analyse le sens de la parole chez les personnages de Thomas Bernard.
Le personnage qui s'adonne à ce genre de monologue, tout comme l'entourage qui est condamné à l'écouter, est habitué à ces torrents insensés. Par conséquent, personne ne les écoute vraiment. Tous se comportent plutôt comme des miroirs lisses ou comme des barrages. C'est le spectateur qui se voit déverser sur lui tout ce délire verbal auquel il n'est pas habitué. Alors, puisque le spectateur est venu au théâtre pour écouter, il s'exécute. Il est victime de la vengeance du personnage en train de monologuer. Et puis, progressivement, un nouveau sens se dégage. Un autre discours, plus consistant, plus distinct. Comme si le rythme de ces flots incessants de paroles donnait naissance à un nouveau format de la parole. La haine manifestée par Thomas Bernhard n'est destructrice qu'en apparence. Il honore non sans peine, seul contre tous, la pauvreté comme condition de l'homme. Il la soigne comme on soigne un homme malade. Et de cette pauvreté surgit notre purification.
Thomas Bernhard. Je passe pour ce qu'on appelle un écrivain sérieux. C'est en réalité une très mauvaise réputation. Cela me met absolument mal à l'aise. D'un autre côté, je ne suis pas non plus ce qu'on appelle un auteur gay. Quelqu'un qui raconte des histoires, au fond, je hais les histoires. Je suis un destructeur d'histoires. Dans mon travail, dès que je vois quelque part se former les prémices d'une histoire, ou dès que je vois quelque part au loin se profiler derrière une colline de prose, ne serait-ce que l'ébauche d'une histoire, je la flingue.
Restons en compagnie de Christiane Loupa. À l'initiative de son directeur, le festival met à l'honneur chaque année un artiste de renommée internationale à travers la programmation de 3 de ses spectacles. En décembre, le public pourra donc découvrir un portrait en triptyque de Christiane Loupa qui monte 3 pièces du dramaturge autrichien Thomas Bernhard. Des arbres à abattre sera présenté à l'Odéon du 30 novembre au 11 décembre. Place des Héros sera présentée à la Colline du 9 au 15 décembre et enfin Déjeuner chez Wittgenstein au Théâtre des Abbesses du 13 au 18 décembre. Voici un extrait de ce déjeuner où le philosophe Wittgenstein, atteint de folie, revient dans la maison familiale après un séjour en hôpital psychiatrique. Il retrouve ses 2 sœurs, Déné l'aînée et Ritter la cadette, toutes 2 comédiennes manquées. L'aîné lui voue un véritable culte et passe son temps à recopier ses manuscrits, qui ne sont qu'une liste de titres d'ouvrages qui ne verront jamais le jour. Dans la scène suivante, Ludwig Wittgenstein est en tête-à-tête avec Ritter, sa préférée. Vous serez Ritter, cher Candice, et je serai Ludwig. Nous sommes à l'acte 2, en plein repas. Elle ne m'a pas apporté le bon papier. Alors il m'a été impossible d'écrire le chapitre 6. Tout perdu, fichu. Je lui avais dit le papier sur quoi j'avais écrit Logique 1, mais elle n'a pas écouté. Toujours encore issue d'une famille riche, disait le directeur, et enrôlée volontaire dans l'armée. Puis les mathématiques l'ont emporté, car qu'est-ce que la philosophie sinon mathématique, extrême mathématique? Notre sœur lui confia qu'à 18 ans, j'ai couché avec notre mère. Elle a dit cela sans la moindre gêne. Le directeur trouva cela drôle. Moi, je ne l'aurais pas dit. Bavardage. Elle me croyait dans ma chambre, alors que pourtant j'étais debout dans l'antichambre du directeur. « Si tu avais fait attention, tout ne serait pas maintenant perdu pour moi, » lui ai-je dit. « Tu m'as tout détruit, sur ce papier, je ne peux rien noter. » Elle me quitta sur le champ, j'ai vu combien elle me haïssait. Elle haïssait tout quand elle est partie. Même mes compagnons de souffrance, elle les poursuivait de sa haine. Je n'ai pas lu les journaux qu'elle m'a apportés, je les ai distribués. Je n'aurais pas dû le faire, parce qu'ils se sont alors tous mis à danser, comme des fous de joie de papier. Elle pense qu'elle écrit sans faire de fautes, elle ne fait que des fautes. Mais rien n'est pourtant plus facile que de taper à la machine un modèle précis. Elle dit qu'elle va de nouveau jouer maintenant, elle monte en scène de nouveau.
Oui.
Comédie, n'est-ce pas? Sœur comédienne, oiseau de théâtre, gazouillis de scène, 2 artistes pour sœurs. Je ne sais pas, est-ce que cela m'a porté bonheur ou malheur? Plus de malheur, je crois, que de bonheur. À coup sûr, plus de malheur.
Mon Ludwig, comme il pense, notre égoïste. Tu ne veux pas encore un morceau de melon? C'est elle, la malade, pas toi. C'est elle, la malade. C'est bien que tu sois là. Nous sommes sur le point d'étouffer, en nous-mêmes. Notre sœur souffre de délire de persécution. Entre nous soit dit. Possédée par la folie du nettoyage, pas une minute de repos. Arpente sa chambre de long en large, dévale chez moi et me demande si moi aussi j'ai mal aux oreilles. Je demande pourquoi devrais-je avoir mal aux oreilles. Alors elle dit... Parce que moi, j'ai mal aux oreilles. Horriblement mal aux oreilles. Toute la nuit, je ne peux pas dormir, parce que d'un bout à l'autre de sa chambre, elle court. Je vais dans sa chambre. Elle croit qu'elle est seule et brosse tes habits pendant des heures. Alors que quand même, je suis là et elle surveille. Elle ouvre toutes les commodes de ta chambre, sort tout, passe le chiffon sur toutes les commodes. Quand je suis entrée dans ta chambre, la semaine dernière, elle était dans le pantalon de ton frac. Terrorisée, elle me déclara qu'elle ne savait pas ce qu'il avait pris de mettre le pantalon de ton frac.
Je n'avais pas l'intention de venir ici. Mes sœurs sont mes destructrices, elles me démolissent. Je me le suis toujours dit. J'ai dit au directeur, si ma sœur vient, dites-lui que je ne veux pas rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'est ma mort. La parenté signifie la mort. Et des amis, je n'en ai pas. Mais elle n'a pas cédé. Je ne voulais pas courir le risque d'un conflit avec elle. Le manque de compréhension, c'est tout ce qui me lie à ma sœur, ai-je pensé. Mais tu me comprends. Tu m'as toujours mieux compris que ta sœur. Elle n'a jamais compris qu'elle-même. Mais je reste le moins de temps possible à la maison, ai-je dit au directeur. 2-3 jours. Dès le 4e, je serai déjà mort. Thomas Bernhard.
En fait, à chaque instant, il y a de quoi éclater de rire. Je ne sais pas, les gens n'ont aucun humour ou quoi.
Mich hat's immer zum Lachen gebracht. Bringt mich auch heute noch.
Moi, ça m'a toujours fait rire. Quand j'ai plus de goût à rien ou que je traverse une période tragique, j'ouvre un de mes livres. Et c'est encore ce qui me fait le plus rire.
Évoquons à présent une autre figure emblématique du Festival d'automne, le grand metteur en scène français Claude Régis, qui fait aujourd'hui ses adieux à la scène. Si Christiane Loupa cherche à révéler la pauvreté comme condition de l'homme, le travail de Claude Régis invite l'acteur à développer sa faculté d'écoute, au service de l'écriture et de ses silences. À l'heure où le grand maître annonce son départ, écoutons la réflexion qu'il porte sur son art. Voici un extrait d'un entretien réalisé pour le journal Le Monde en septembre 1990, toujours cité par Antoine Debecq. Je me sens un peu étranger au monde du théâtre. Le cinéma m'a beaucoup influencé. Je lui ai emprunté sans doute une manière de faire bouger les acteurs qui remplacent les mouvements de caméra et des silences, des scènes muettes, des présences très développées, un autre rapport entre la quantité du texte et celle de l'image. J'essaie aussi de ne pas uniquement délivrer le sens des mots, mais de faire résonner tous les échos qu'une phrase peut susciter. L'écriture a sa propre musique, qu'il ne faut pas oblitérer. Elle est première pour moi. 3 voyageurs regardent un coucher de soleil de Wallace Stevens ou le criminel de Leslie Kaplan. Ce n'était plus tout à fait du théâtre. Et c'est ce vers quoi je tends. Je travaille sur les limites, sur un domaine instable, sans beaucoup de règles. Il s'agit de se mettre dans un espace vide, en état de liberté. Attendre ce qui veut se produire avec des êtres humains qu'on a réunis en écoutant une écriture. Il est plus important de faire entendre le cri que de faire entendre du théâtre. Claude Régis.
Le lieu commun, c'est de dire que la littérature, c'est faux. Que ce qui est vrai, c'est la vraie vie, comme on dit. Or, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire, dans la vraie vie, il y a des éléments, mais ce ne sont que des éléments. Et c'est par la transposition de faits opérés par l'imaginaire, justement, sans doute à partir d'une certaine zone peu consciente, qu'une certaine vérité peut être atteinte par des œuvres de fiction. De s'approcher de la connaissance par la fiction, beaucoup plus que par le contact avec le réel.
Et c'est bien un cri déchirant que nous donne à entendre la dernière création de Claude Régis. Un cri mutique, magistralement incarné par le comédien Yann Boudot. Grand passeur des écritures contemporaines, Claude Régis a choisi de mettre à l'honneur un auteur autrichien méconnu, George Trakl, mort à 27 ans au début de la Première Guerre mondiale. Le texte s'intitule « Rêve et folie ». Il est le testament poétique d'un jeune soldat hanté par la pourriture noire qui l'entoure. Engagé volontaire comme pharmacien, George Trakl se suicide par overdose de cocaïne sur le front de Grodek en Pologne en novembre 1914. Hélas, le spectacle présenté au Théâtre des Amandiers de Nanterre s'est clos hier. En hommage à Claude Régis, découvrons ce soir cet auteur au talent hallucinatoire. L'occasion pour nous de saluer le grand maître à travers la parole de ce jeune homme qu'il ressuscite pour nous. Le texte est édité chez GLM en 1956 dans une traduction de Henri Stierlin. À vous l'honneur, chère Candice Lartigue, avec ce poème intitulé « Grodeck ».
Le soir, les forêts automnales résonnent d'armes de mort et les plaines d'or et les lacs bleus ou sombres, un morne soleil, la nuit cerne. Des guerriers agonisant, la sauvage clameur de leurs bouches fracassées. Pourtant, sans bruit, conflue au creux des prairies, nuage rouge où vit un dieu courroucé, le sang versé, froid lunaire. Toute voix débouche dans une pourriture noire. Sous les frondaisons d'or de la nuit constellée, s'avance en chancelant l'ombre de ma sœur par le bosquet silencieux, pour saluer l'âme des héros, leurs têtes sanglantes. Et dans les roseaux chantent faiblement les sombres pipeaux de l'automne. Ô deuil orgueilleux, autel de bronze, l'ardente flamme de l'esprit se consume, aujourd'hui dans cette immense douleur, nos descendants qui ne verront pas le jour.
Et voici un autre extrait de ce recueil de courts textes en prose rassemblés sous le titre « Rêve et folie ». Le passage suivant évoque, comme chez Thomas Bernhard, le destin d'un jeune homme hanté par la folie, la mort et le souvenir incestueux de sa sœur. Oh, sans répit, ma tête obscurcie reste en éveil. Mais comme je descendais le sentier des falaises, la folie s'empara de moi et je me mis à hurler dans la nuit. Puis, me penchant avec mes doigts d'argent sur les eaux muettes, je vis que mon visage m'avait abandonné. Et la voix blanche me dit « Tue-toi ». Gémissant, l'ombre d'un enfant se dressa devant moi et me regarda, si radieuse de ses yeux de cristal, qu'en pleurant, je m'écroulais sous les arbres, sous la majestueuse voûte étoilée. Tandis que je m'anéantissais dans ma contemplation, s'évanouirent en moi l'angoisse et les profondes souffrances. Alors l'ombre bleue de l'adolescence s'éleva, radieuse, dans l'obscurité, comme un chant suave. Et sur ses ailes de lune, le visage de ma sœur s'envola par-dessus les cimes verdoyantes et les arêtes cristallines. Chaussé d'argent, je descendis les gradins ronceux, puis j'entrai dans la chambre peinte à la chaux. Un flambeau y brûlait en silence, et sans mot dire, je cachai ma tête dans les draps pourpres. La terre vomit alors un cadavre d'enfant. Créature lunaire qui, lentement, sortit de mon ombre et s'abattit, les bras rompus, au fond de rocheux abîmes en neige floconneuse.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Si les promesses de voyage, le Festival d'automne nous invite aussi à un voyage dans le temps, passant d'une guerre à l'autre. En effet, le festival rassemble trois générations d'écrivains d'Europe centrale. Après Thomas Bernhard et Georges Trakl, voici une romancière d'origine hongroise qui a connu un immense succès avec sa célèbre trilogie des jumeaux. Il s'agit d'Agota Christophe, auteure du Grand Cahier, un livre bouleversant sur les conditions de survie de deux jeunes frères pendant la Seconde Guerre mondiale. Réfugiés à la campagne chez une grand-mère qui les déteste, les jumeaux s'infligent à eux-mêmes des épreuves inhumaines pour apprendre à supporter la souffrance et la faim. Ils s'endurcissent afin d'être prêts pour leur grand projet, passer la frontière à quelques kilomètres de là. Cet hiver, la compagnie anglaise Frost Entertainment, dirigée par son metteur en scène Tim Mitchells, présentera ce récit à deux voix sous le titre « The Notebook » du 28 novembre au 3 décembre au Théâtre de la Bastille. À travers l'histoire de deux enfants qui s'entraînent à résister au mal, donc, ce texte au style brut est aussi le portrait d'une Europe décadente qui sombre dans la cruauté et le vice. Dans le passage suivant, les garçons font la rencontre d'un officier allemand logé chez la grand-mère.
Nous faisons notre exercice d'immobilité dans le jardin. Il fait chaud. Nous sommes couchés sur le dos à l'ombre du noyer. À travers les feuilles, nous voyons le ciel, les nuages. Grand-mère sort de la maison. En passant à côté de nous, d'un coup de pied, elle envoie du sable et du gravier sur notre visage et sur notre corps. Elle marmonne quelque chose et s'en va dans la vigne pour faire la sieste. L'officier est assis, torse nu, les yeux fermés sur le banc devant sa chambre, la tête appuyée contre le mur blanc, en plein soleil. Soudain, il vient vers nous. Il nous parle, mais nous ne répondons pas. Nous ne le regardons pas. Il retourne sur son banc. Plus tard, l'ordonnance nous dit
« Monsieur l'officier demande vous venir vous parler. »
Nous ne répondons pas. Il dit encore
« Vous levez et venir, officier fâché si vous pas obéir. »
Nous ne bougeons pas. L'officier dit quelque chose et l'ordonnance entre dans la chambre. On l'entend chanter en faisant le ménage. Quand le soleil touche le toit de la maison à côté de la cheminée, nous nous levons. Nous allons vers l'officier. Nous nous arrêtons devant lui. Il appelle l'ordonnance. Nous demandons. Que veut-il ? L'officier pose des questions. L'ordonnance traduit.
L'officier demandait pourquoi vous pas bouger, pas parler.
Nous faisons notre exercice d'immobilité.
Monsieur l'officier, dire, vous faites beaucoup d'exercices, aussi autre sorte. Il a vu vous taper l'un l'autre avec ceinture.
C'était notre exercice d'endurcissement.
Monsieur l'officier demandait pourquoi vous faire tout ça?
Pour nous habituer à la douleur.
Il demandait, vous, plaisir à avoir mal?
Non. Nous voulons simplement vaincre la douleur, la chaleur, le froid, la faim, tout ce qui fait mal.
Monsieur l'officier, admiration pour vous. Il trouvait vous extraordinaire.
L'officier ajoute quelques mots. L'ordonnance nous dit.
Bon, fini. Moi, obligé de partir maintenant. Vous aussi, filez. Allez à la pêche.
Mais l'officier nous retient par le bras en souriant et fait signe à l'ordonnance de partir. L'ordonnance fait quelques pas, se retourne.
Vous partir, vite. Allez promener dans la ville.
L'officier le regarde et l'ordonnance s'éloigne jusqu'à la porte du jardin, d'où il nous crie encore.
Foutre le camp, vous. Pas rester, pas comprendre, imbécile.
Il s'en va. L'officier nous sourit, nous fait entrer dans sa chambre. Il s'assied sur une chaise. Il nous tire à lui, nous soulève, nous fait asseoir sur ses genoux. Nous mettons nos bras autour de son cou. Nous nous serrons contre sa poitrine velue. Il nous berce. En dessous de nous, entre les jambes de l'officier, nous sentons un mouvement chaud. Nous nous regardons, puis nous regardons l'officier dans les yeux. Il nous repousse doucement. Il nous ébouriffe les cheveux. Il se met debout. Il nous tend deux cravaches et il se couche sur son lit à plat ventre. Il dit un seul mot que, sans comprendre sa langue, nous comprenons. Nous frappons. Une fois l'un, une fois l'autre. Le dos de l'officier se strie de raies rouges. Nous frappons de plus en plus fort. Le corps, les cheveux, les habits de l'officier, les draps, le tapis, nos mains, nos bras sont rouges. Nous continuons de frapper jusqu'à ce que l'homme pousse un cri final inhumain, et que nous tombions épuisés au pied de son lit.
Remontons le cours du temps et faisons la connaissance d'une autre fratrie dans les années 1870. Il est le cadet, la tête de turc de sa famille, à cause de ses cheveux roux. Enfant mal aimé et maltraité, il endure les punitions cruelles de sa mère et l'indifférence de son père. Vous aurez certainement reconnu François Lepic, plus connu sous le nom de Poil de Carotte, qui donne son titre au célèbre roman autobiographique de Jules Renard.
François Lepic, votre père n'est donc pas bon pour vous ?
Oh si, monsieur Lepic.
Comment, monsieur Lepic ?
Oui, monsieur Lepic, enfin mon père.
Eh bien, votre père ?
Il m'impressionne. Je le vois pas beaucoup, il est tout le temps à Paris. Mais à la maison, il a pas de langue. Il rit dans sa barbe.
Mais il vous aime bien.
Oh, ben, je suppose.
Et votre mère ?
Madame Lepic ? Oh, elle parle, elle se dispute toute seule. Plus monsieur Lepic se tait, plus elle cause avec tout le monde. Avec monsieur Lepic qui ne répond pas, avec mon frère Félix qui répond quand il veut, et avec moi qui répond quand elle veut. Et avec le chien qui remue la queue.
Le texte fait l'objet d'une très belle adaptation signée par Sylvia Costa, artiste privilégiée du metteur en scène Romeo Castellucci. Sylvia Costa livre une version graphique de Poil de Carotte, inspirée des premières illustrations de Félix Vallotton en 1894. Présenté à la Villette du 18 au 21 novembre prochain, le spectacle est une fable contre les injustices de la vie. De ces injustices qui font dire à Poil de Carotte cette fameuse réplique « Tout le monde ne peut pas être orphelin ». Voici un exemple des humiliations que le petit garçon subit au quotidien. Je serai Madame Lepic, et Poil de Carotte et la vieille Marie Nanette à la fin seront lus par vous, Candice. Comme il lui est arrivé déjà plus d'un malheur au lit, Poil de Carotte a bien soin de prendre ses précautions chaque soir. En été, c'est facile. À 9h, quand Madame Lepic l'envoie se coucher, Poil de Carotte fait volontiers un tour dehors, et il passe une nuit tranquille. Mais ce soir, la pluie crible les carreaux, le vent a éteint les étoiles et les noyers ragent dans les prés.
Ai-je envie ? N'ai-je pas envie ? Ça se trouve bien, j'ai pas envie.
Fier d'avoir ainsi délibéré, il dit bonsoir à tout le monde, allume une bougie et gagne au fond du corridor, à droite, sa chambre nue et solitaire. Il se déshabille, se couche et attend la visite de Madame Lepic. Elle le borde serré et souffle la bougie. Et elle l'enferme à clé parce qu'il est peureux. Poil de Carotte se plaît à songer dans les ténèbres. Il repasse sa journée, se félicite de l'avoir fréquemment échappé belle et compte pour demain sur une chance égale. Il se flatte que 2 jours de suite, Madame Lepic ne fera pas attention à lui et il essaye de s'endormir avec ce rêve. À peine a-t-il les yeux fermés qu'il éprouve un malaise connu. Un autre se lèverait, mais Poil de Carotte sait qu'il n'y a pas de peau sous le lit. Quoique Madame Lepic puisse jurer le contraire, elle oublie toujours d'en mettre un. Et Poil de Carotte résonne au lieu de se lever.
Tôt ou tard, il faudra que je cède. Or, plus je résiste, plus j'accumule. Mais si je fais pipi tout de suite, je ferai peu. Et mes draps auront le temps de sécher à la chaleur de mon corps. Je suis sûre, par expérience, que maman n'y verra goutte.
Poil de Carotte se soulage, referme les yeux en toute sécurité et commence un bon somme. Brusquement, il s'éveille et écoute son ventre.
Oh oh, ça se gâte.
Tout à l'heure, il se croyait quitte. C'était trop de veine. Il a péché par paresse. Sa vraie punition approche. Il s'assied sur son lit et tâche de réfléchir. La porte est fermée à clé. La fenêtre a des barreaux. Impossible de sortir. Il rampe par terre et ses mains rament sous le lit à la recherche d'un pot qu'il sait absent. Ses deux poings refoulent son ventre qui se dilate.
Maman ! Maman !
Dit-il d'une voix molle, avec la crainte d'être entendu, car si Madame Lepic surgissait, Poil de Carotte, guérie, nette, aurait l'air de se moquer d'elle. Et comment crierait-il ? Toutes ses forces s'usent à retarder le désastre. Bientôt une douleur suprême met Poil de Carotte en danse. Il se cogne au mur et rebondit. Il se cogne à la chaise, il se cogne à la cheminée dont il lève violemment le tablier et il s'abat entre les chenets, tordu, vaincu, heureux d'un bonheur absolu. Le noir de la chambre s'épaissit. Hélas, Poil de Carotte ne s'est endormi qu'au petit jour et il fait la grasse matinée quand Madame Lepic pousse la porte et grimace comme si elle reniflait de travers. Quelle drôle d'odeur !
Bonjour, maman.
Madame Lepic arrache les draps, flaire les coins de la chambre et n'est pas longue à trouver.
J'étais malade et il n'y avait pas de peau.
Menteur ! Menteur ! Elle se sauve, rentre avec un pot qu'elle cache et qu'elle glisse prestement sous le lit, flanque poil de carotte debout, ameute la famille. Tantôt, elle apporte des torchons, un seau d'eau. Elle inonde la cheminée comme si elle éteignait le feu. Elle secoue la literie, elle demande de l'air, affairée et plaintive. Et tantôt, elle gesticule au nez de poil de carotte. Qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour avoir un enfant pareil ? Misérable, tu perds donc le sens ? Te voilà donc dénaturé ? Tu vis comme les bêtes. On donnerait un pot à une bête, elle saurait s'en servir. Et toi, tu imagines de te vautrer dans les cheminées ? Dieu m'est témoin que tu me rends imbécile et que je mourrai folle, folle, folle ! Poil de carotte en chemise et pieds nus regarde le pot. Cette nuit, il n'y avait pas de pot. Et maintenant, il y a un pot là, au pied du lit. Ce pot vide et blanc l'aveugle. Et s'il s'obstinait encore à ne rien voir, il aurait du toupet. Quant à toi, poil de carotte, emporte le son infect et va l'exposer sur le mur du jardin. Il faut que tout le village défile devant pour ta confusion. Poil de carotte prend le seau et sort. Et l'ayant déposé au soleil, il monte la garde près de lui. Les voisins goguenards défilent, le facteur passe. C'est la vieille Marie-Nanette qui s'approche la première.
Et toi, que fais-tu là ? Boudeur et les yeux troubles. Je parie qu'on t'a grondé et mis en pénitence. Je te plains, mon pauvre petit, car j'imagine qu'il te rende la vie dure.
Poil de carotte s'assure d'un coup d'œil que sa mère ne peut pas l'entendre, et il dit à la vieille Marie-Nanette :
Et après, est-ce que ça vous regarde ? Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-moi tranquille.
Restons dans le registre de l'enfance et évoquons à présent une autre grande personnalité du Festival d'automne, le dramaturge Valère Novarina. Auteur et metteur en scène au génie poétique, Valère Novarina invente une langue inédite et invite ses acteurs à s'en emparer avec un esprit d'enfance. Voici le témoignage qu'il livre à l'occasion de la création de sa célèbre pièce « Vous qui habitez le temps » en 1989. Ses propos, recueillis par Noël Renaud, sont cités par Antoine Debecq dans son livre anniversaire « Esprit d'automne », l'occasion de saluer un grand auteur et ami que j'estime particulièrement. Il faut des acteurs combatifs, intrépides, capables de croire et de marcher sur les eaux. Des acteurs qui aient le courage artistique de jouer une écriture nouvelle. Ce travail sera pour eux libératoire. Cela leur fait apparaître des ailes qu'on ne leur voyait pas. Un son nouveau sort de leur bouche. C'est un théâtre qui ne supporte pas le jeu psychologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait ni sentiment ni vérité. Au contraire, il faut des vérités tout le temps et des sentiments sous chaque son. Mais ils ne sont pas conformes à la vraisemblance psychologique. Cela demande un esprit d'enfance. Ces acteurs-là ont un rapport musical, rythmique au langage. Ils aiment parler. Ils ont une sorte de naïveté. Ils s'étonnent de la parole.
Tu mens, tu mens ! Il ment, il ment !
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir ?
Les acteurs ont l'intelligence poignante des enfants.
Tais-toi ! Ça va, ça suffit, là !
Ils ont cette capacité d'être immédiatement et entièrement présents dans ce qu'ils disent, présents dans leur corps, avec l'humilité, le goût de la terre dans leur bouche. L'acteur doit être dans sa voix, dans son mouvement, être là. Sans commentaire. C'est de ça que parle vous qui habitez le temps. L'être là du théâtre.
Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule.
Découvrons à présent un autre esprit frondeur, celui d'un collectif d'artistes belges. C'est l'événement qui clôturera la programmation théâtrale de ce 45e festival d'automne. Née à Anvers, il y a 26 ans, la compagnie de Caux revient à Paris avec une joyeuse trilogie intitulée « Blanc, rouge, noir ». Le spectacle, qui sera présenté au Théâtre de la Bastille du 6 au 17 décembre, explore l'histoire de l'art, de la Renaissance jusqu'en 1913, année où le peintre Malevitch provoque une révolution avec son carré noir, premier monochrome de l'art moderne. Contre le sentiment de désenchantement, la pièce nous promet le relèvement de l'Occident. Ouvrons le premier volet de ce triptyque et écoutons l'un des monologues qui scande cette épopée.
Je vous l'ai dit, que j'ai fait de la peinture. C'est dit, alors. Jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça aussi, je l'ai dit. Alors je ne dois plus vous dire
que j'ai arrêté pour faire du théâtre. J'ai dit tout ça. C'est bien. Ça m'évite de longues explications. Et que j'ai recommencé il n'y a pas si longtemps à peindre et que j'ai un atelier et tout ça. Alors j'ai déjà dit beaucoup de choses, en fait. Soudain, je m'étais rendu compte que je n'avais pas de chaise. Alors j'ai acheté deux chaises. Avec ces chaises, la différence est énorme. On peut s'asseoir et alors tout semble plus grand parce qu'on est situé plus bas. Il a fallu que je m'y habitue. Mon travail devenait terriblement imposant. Cette solitude, ce vide, c'est fantastique. Ce sont les meilleurs moments pour travailler. Et alors, quand quelqu'un entre tout à coup, on est, je dirais, tiré du sommeil. Vous comprenez? Dans une vie de peintre, c'est ennuyeux d'être dérangé, car on veut y rester. On ne veut pas être au présent. Vu de l'extérieur, quelqu'un pourrait dire que c'est une transe, mais ce n'est pas ça. On est tout simplement entièrement immergé dans le néant. Dans être le néant. Dans être et être le néant. Peindre, c'est méditer. On est présent et on ne l'est pas. Je passe des heures à peindre. Il y a aussi un moment où c'est terminé. Je fais quelques pas en arrière et je m'assieds pour la regarder, dans l'espoir de pouvoir encore ajouter un coup de pinceau par-ci, par-là. C'est un moment dramatique. Je n'ai pas envie de dire adieu. Je veux rester dans la toile. Mais je sens que la toile me repousse, qu'elle en a fini avec moi. Et pourtant, moi, je sens que la toile n'est pas terminée et qu'un conflit se manifeste entre la toile et moi. Je m'assieds pour la regarder et je la termine en regardant. Car regarder, c'est aussi peindre. Sans toucher la toile, je la regarde jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et alors tout à coup, la toile est terminée. Sans que je ne l'ai plus touchée. Alors je la mets de côté. Je la termine en regardant. Regarder est aussi important que peindre. Tout cela se joue à la frontière entre être et être le néant.
Un Jésus et sa cour, la descente de croix. Il faut durcir le trait, adoucir les contours. Indélébile couleur, tant de gris délavé. Où sont passés les bleus, les jaunes et puis les verts? Les gouaches sur mes mains se sont entremêlées. Je laisse sur les murs des traces de peinture. Mon regard s'est brouillé, rose et rouge noyé. Mes mains sont en colère, j'ai encore trop fumé. Les odeurs se mélangent, j'ai fermé les volets. C'est la vie qui dérange, au dehors, au dedans. Les gouaches sur mes mains se sont entremêlées. Je laisse sur les murs des traces de peinture. C'est de l'encre de Chine sur une plume de pan. Le papier se déchire car il n'a pas la force, pas plus que moi d'ailleurs, de marchander le pire. J'allume la télé, économie de marché. Intégrant, intégré, chômeur et salarié. Prenons le même bain, salissons-nous les mains avec ces bâtons gras qu'on nous donne à toucher. Il est très prétentieux de penser et de croire qu'il n'y a pas de hasard. Tu me voyais en bleu, je ne t'offre que du noir. Il faut tuer nos dieux, rayer le mot destin. Je gomme mon dessin, j'en recommence un autre. Un Jésus et sa cour, la descente de croix. Il faut durcir le trait, adoucir les contours. Les gouaches sur mes mains se sont entremêlées. Je laisse sur les murs des traces de peinture.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Évoquons à présent votre travail de comédienne, Candice Lartigue. Vous appartenez à un collectif d'acteurs, la compagnie Les Apaches. Vous êtes actuellement en répétition de votre prochaine création, Une place particulière, qui se jouera du 1er au 14 décembre au Théâtre Montfort. La pièce signée Olivier Augron, que je salue, traite du sentiment paradoxal du manque, de cette place à la fois vide et surinvestie qu'occupe un défunt dans le cercle familial. Dans le passage suivant, deux couples, qui ne se connaissent apparemment pas, se retrouvent dans la salle d'attente d'un notaire pour une affaire de succession. Chez l'un et l'autre, la tension est à son comble. Le ton monte. Nous jouerons l'un des deux couples, qui portent bien leur nom, Candice et Guillaume. Vous serez également Margot à la fin de la scène.
Bon, ça va? T'es calmé maintenant? Tu vas enfin te comporter en adulte responsable et en père de famille, ou c'est encore à l'enfant que je dois m'adresser?
Arrête. C'est toi qui te comportes comme une gamine. C'est incroyable, ça a toujours inversé les rôles.
Non, mais je rêve. Tu t'entends, là, hein? C'est tout ce que tu trouves à me dire.
Et toi, c'est tout ce que t'as à me dire? L'argent, l'argent, combien il y a d'argent? Depuis 2 jours, tu n'as que ce mot à la bouche. Je suis sûr qu'il n'y en a pas d'argent, comme tu dis.
Comment tu peux dire ça, aussi sûr de toi, toujours? C'est usant.
C'était un petit représentant qui vendait des frigos. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme pognon? Une feignasse, voilà ce que c'était. Un pauvre type, ça représente rien pour moi. T'as compris? Ou il faut que je te réexplique?
Réfléchis encore avant de prendre une décision. Tu sais, moi, ce que j'en pense...
Oui, je sais ce que tu en penses. Ça va. J'ai eu le temps de l'entendre depuis hier, ton discours. Et pendant tout le trajet. Des heures à rabâcher la même chose. Mais tu ne te saoules pas, ma parole? L'argent, l'argent, je te comprends plus, Candice.
Mais moi non plus, tu vois. On est deux. Tu le sais que c'est important pour moi. J'en ai besoin.
C'est une simple formalité, une signature en bas d'une page, et après basta, j'oublie, rayé, ça n'existe plus, t'as compris?
Merci, oui, je comprends. Mais moi, à ta place...
Eh bien justement, tu n'y es pas à ma place. Je comprends pas pourquoi t'es venu. C'est pour me polluer avec tes réflexions cupides et vénales.
Moi, je suis cupide? Moi, je suis vénale? Non mais on croit rêver, là. C'est le monde à l'envers. L'argent de mon père, t'étais bien content de le trouver à une certaine époque, non? Tu crachais pas dessus, si je me souviens bien. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire?
Arrête, ça suffit maintenant, tu m'emmerdes à la fin. Tu comprends pas que c'est une dissonance dans ma vie, une aberration, une tâche dont je dois absolument me défaire? Alors fous-moi la paix avec ce fric, celui de ton père ou du pape.
S'il vous plaît, vous pourriez garder un peu de retenue.
De retenue? De la retenue? T'entends ça, chérie? Non mais vous plaisantez, madame. Non mais vraiment, t'entends ça, chérie?
Non mais mêlez-vous ce qui vous regarde en vous.
De la retenue, de la retenue. Oh, je me marre. Oh, la conne.
Qu'est-ce qui te prend?
Non, mais c'est vrai, ça. Tout à l'heure, vous avez passé 10 minutes à vous gueuler dessus et déballer votre linge sale, sans vous soucier de notre présence, sans la moindre pudeur, comme si on faisait partie de votre famille de dégénérés. Et tu te rends compte, chérie, maintenant, madame demande de la retenue. C'est beau. Alors vraiment, oui, je persiste. La conne.
C'est pas vrai. Faut toujours que tu la ramènes. Que t'aies le dernier mot.
J'ai appris,
Claude Régis,
que l'essentiel d'un texte, ce sont les sonorités et les rythmes. Et que les sonorités et les rythmes sont plus importants que le sens. Et que donc il ne faut pas jouer le sens. J'ai découvert petit à petit, et en travaillant, et c'est ça qui fait que l'écriture, en fait, là aussi, il n'y a pas de distinction entre la prose et la poésie. Et toute écriture digne de ce nom est poésie. Poésie qui d'ailleurs, dans l'étymologie, veut dire inventer. Donc, c'est l'invention d'un langage, c'est aussi l'invention d'une pensée.
ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Delphine Baudet. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Merci à Christine Delterme du Festival d'Automne que j'embrasse, ainsi que Marie Collin. Un grand merci à vous, Candice Lartigue.
Merci Guillaume.
Je rappelle que vous jouerez en décembre dans la pièce d'Olivier Augron, Une place particulière au Théâtre Montfort. Bonne soirée et à la semaine prochaine.